Pour ma chronique Finance Vérité numéro 2, le sous-titre pourrait bien être « L'impôt à 0%, la richesse pour qui ?» En effet, dans l'actualité économique, je relève les manifestations récentes dans les rues, souvent analysées comme remettant en cause le bouclier fiscal et réclamant une surimposition des plus riches. Ces réclamations sont davantage le fait des gauchistes, mais pas seulement. Le plafonnement de la dette fiscale à 50% des revenus est évidemment préférable à 72 ou 76% pour les malheureux assujettis. Mais la renonciation de l'État totalitaire à un quart des revenus imposables à la tranche maximale de l'IRPP ne lui coûte en fait que fort peu. On parle de moins d'un demi-milliard. Le manque à racketter est d'autant moins élevé que fort peu d'assujettis osent en demander le bénéfice, toujours soumis à une inquisition fiscale renforcée, ou en tout cas, crainte comme telle. Disons le mot, ce bouclier fiscal est une farce de mauvais goût, une malhonnêteté de plus de la République totalitaire. Car enfin, si même la moitié est moins contraignante que les trois quarts de ses revenus annuels à payer en impôts, qui peut bien avoir envie, ce qui s'appelle vraiment envie, de rester en France avec la promesse d'une telle ponction? Je vous rappelle que mon ancêtre, comme un à d'autres, le sieur des Marais, neveu de Colbert, anobli par Louis XIV avec le titre de marquis de Maillebois, a vu se dresser contre son projet de réforme fiscale presque toute la noblesse française, alors qu'il ne parlait que d'instaurer le dixième, soit 10% d'impôt sur ses revenus, jusque-là exonérés totalement. Un dixième, dans l'encyclopédie universaliste de 86, était considéré comme le maximum de fiscalité tolérable. Voilà la réforme véritable à faire. 10% des revenus en impôts pour tout le monde. Seulement, il faudrait pour cela que l'État cesse d'être communiste, révolutionnaire et républicain pour redevenir honnête, modéré et paternel, donc qu'il fasse des économies drastiques et cesse une fois pour toutes de se mêler de tout pour ne se consacrer qu'à ses seules tâches d'État, monnaie, défense, minimum d'administration. Ce dernier point est devenu facile à atteindre avec les ordinateurs. Voilà la réclamation qu'eussent dû porter les manifestants de ces deux dernières semaines s'ils avaient été intelligents et dévoués au bien commun général, comme doit l'être tout gouvernement. Ce qui m'amène dans mon conseil patrimonial du jour à rappeler que depuis des années, depuis les années 70 par exemple, les revenus du travail sont de très loin beaucoup plus taxés que les revenus d'autres sources, comme par exemple les capitaux mobiliers. On sait depuis longtemps qu'à revenu égal, on est taxé facilement à 30% pour des revenus de cadre, mais seulement à 10%, voire rien du tout, sur des revenus de portefeuille. L'IRPP est une formidable pince à pressurer le travail et l'innovation, qui vient compléter l'autre pince de la taxe professionnelle pour former la tenaille totalitaire bien connue. De cette constatation ancienne et toujours actuelle, il convient de tirer la conclusion que ces deux pinces doivent être détruites et remplacées par un impôt unique, simple, modéré et basé sur l'accroissement de fortune d'une année sur l'autre de tout un chacun. Pour être vraiment modéré, l'assiette de cet impôt devrait être moyennée sur plusieurs années. En attendant ce paradis terrestre fiscal, recherchez donc les plus-values sur les capitaux mobiliers, lesquels sont exonérés d'impôts, 0%, si vos ventes dans l'année ne dépassent pas 25 300 euros. 2000 euros par mois en moyenne sans impôts, et c'est valable pour tout le monde. C'est pas mal quand même, d'autant qu'en période de fortes fluctuations, baissières comme haussières, sur les marchés boursiers, les écarts sont faciles pour qui sait s'y prendre, avec des plus-values à la clé de 30 à 25 000%. Je dis bien 25 000% possible sur telle ou telle valeur, la valorisation générale du portefeuille peut facilement dépasser les 25% l'an. Donc avec un capital de 100 000 euros, 25 000 euros de plus-value exonérée. Alors, à vos ordinateurs donc. J'aborde ici mon histoire de la monnaie dans son chapitre 2. Comme vous le savez, cette histoire de la monnaie, depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, a pour devise générique « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Ô combien. Ce chapitre 2 nous rappelle comment on devient riche comme Crésus. Vous vous rappelez qu'à Alésia, beaucoup de bourses furent répandues par terre. Il nous faut remonter dans le temps, bien avant au moins 52 cependant, là où la tradition fait remonter la première monnaie moderne vers moins 685 avant Jésus-Christ. Là, nous nous retrouvons dans la province de Lydie, Anatolie actuelle, de l'Ouest, où coulait la petite rivière nommée le Pactole, laquelle est restée légendaire au point que son nom est devenu commun. En effet, sous Gigès, des pièces d'électrum, qui est un alliage naturel d'or et d'argent, récoltées dans cette rivière, qui était d'une très belle couleur ambrée, y furent frappées avec protomée de lion à l'avers et poinçon en sexagésimal mésopotamien au revers. C'est Crésus, roi de cette même province, qui frappa le premier double monnayage d'or ou d'argent, indifféremment, et avec le même pouvoir d'achat, vers moins 550 avant Jésus-Christ, dans des pièces encore plus pures et plus légères, parce que plus petites, les fameuses Créséides, qui donnèrent naissance à la légende toujours actuelle qui veut que l'on soit riche comme Crésus. Plus tard, sous Darius, l'empire perse frappa la Darique, vers moins 510, égal à un sicle babylonien de 16,82 grammes d'argent pur, lequel valait un porc plus deux moutons, suivant le code d'Hammurapi remontant à moins 1760 ans avant Jésus-Christ, soit 12 siècles avant Darius. Les banquiers comme les marchands prêtaient alors indifféremment en argent ou en orge, la céréale. Ces dariques furent frappés jusqu'à la conquête de la Perse par Alexandre Ier de Macédoine, dit le Grand. C'est seulement après sa mort qu'apparaissent des pièces frappées à effigie humaine, inspirées des Perses, sans doute à la suite de sa déification. Du 7e au 3e siècle avant notre ère, près de 1400 villes et 500 chefs d'État bâtirent monnaie, pour un total d'environ 2000 monnaies différentes. Les monnaies grecques avaient des noms de poids. Le talent, rappelez-vous dans Bénure l'énorme pari de 20 000 talents avec Massala, ou encore la mine, ou le cycle. Athènes frappa des monnaies d'argent réputées comme son célèbre tétradrachme à chouette. Ce ne fut que durant les périodes de crise aiguë que cette grande capitale frappa des pièces d'or. Rhodes, Milet, Olympie, Tarente, Messine et surtout Syracuse frappèrent les plus belles pièces. La monnaie grecque dominait le monde antique, comme le dollar US de nos jours, et Carthage comme Marseille copièrent les pièces de Syracuse tandis que Rosas en Espagne copiait celles de Rhodes. Le bimétallisme, cependant, devait conduire à bien des errements, principalement dus à l'ignorance du rapport naturel de l'or à l'argent, qui ne devait être découvert que bien plus tard. Nous allons voir dans l'épisode suivant comment on arrive si facilement à masquer une dévaluation monétaire par une réévaluation. À bientôt donc. Au revoir.